autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Tiens, 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 voilà l'ami Léon, écoutons-le. Ah, si je pouvais avoir pour Noël le cœur de la belle Anna que j'adore. Elle est si douce, oh, si gentille, mais je ne peux y croire. Léon nous a rêvé à son Noël. Léon nous a rêvé à son Noël. Le tout premier palindrome de votre gérant, composé au siècle dernier, en novembre 1997, pour autant qu'il s'en souvienne. Et Radio Palindrome, il est 13h31, voici notre flash d'information. Nous apprenons que notre ami Noël a été tué ce matin au métro Pelleport. C'était un ami intime du chef de station, Léon, très affecté par cette disparition. Notre reporter Bob l'a rencontré.
Je suis très très triste, je suis très très malheureux. Oh, je pleure depuis ce matin, je pleure. Oh, Noël et moi, nous étions comme deux frères. Oh, que je suis malheureux. Bouhouhou.
Noël, tu es métro Pelleport, émeut Léon. Noël, tu es métro Pelleport, émeut Léon.
Bonjour auditeurs, auditrices de Radio Libertaire. Bonjour Elsa.
Bonjour papa. Bonjour chers auditeurs. Bonjour chers auditrices.
Eh bien, c'est l'émission Civis Pacem, comme tous les jeudis. Civis Pacem, c'est la section française de l'Internationale des résistants à la guerre. Et si vous voulez soutenir le journal, vous pouvez écrire à la boîte postale 40 196 75 624 Paris-Sedex 13 et pour l'abonnement au journal, un abonnement d'un seul numéro, de 12 numéros à l'année, c'est 30 euros. Mais si vous voulez nous aider un peu plus, en adhérant à l'Union Pacifiste, l'adhésion coûte 25 euros. Donc ça fait en tout une petite somme de 55. Et ce sera de l'argent bien placé. Et au moins, si vous êtes anti-militariste, anti-guerre, contre le SNU et consorts, ce sera un bon geste de votre part. Voilà. Donc, je vais vous lire l'édito d'Yves Locard du mois dernier. En joujou feu. L'année tire à sa fin quand d'autres n'ont d'autre fin que de tirer sans fin. La plupart tirent le diable par la queue, d'autres tirent au flanc. Et cela nous intéresse. Mieux vaut tirer au flanc que tirer en plein cœur, tirer dans le tas, à tir à l'arigot. Mieux vaut se tirer pour s'en tirer, tirer les marrons du feu. Être hors jeu plutôt que de se retrouver marron. Feu un tel, anonyme, victime de ceux qui tirent toujours leur épingle du jeu, être un franc tireur en quelque sorte. Tirer au flanc, désobéir, ne pas suivre le troupeau, ne pas saluer le drapeau, ne pas sacrifier sa peau, ne pas servir d'appôt pour les suppôts, des supposées bonnes raisons, voilà le programme qu'il faut suivre. Tirer au flanc, l'expression est évidemment d'origine militaire, mais péjorative, synonyme de lâcheté, de fuite, d'abandon de poste. Mais quand le poste est honteux lui-même, quand le poste est indigne d'un statut humain, quand le poste ne mérite que mépris, le devoir, l'honneur, la sagesse sont d'abandonner, de le déserter, de le dénoncer. Si tous les soldats tirés au flanc se repliaient vers l'arrière, se planquaient, avaient le courage, bon sang, il est là le courage de tirer leur révérence, d'attirer de préférence toute la compagnie, d'en tirer les conséquences, de tirer un trait une fois pour toutes sur cette absurdité, cette horreur, ce jeu de massacre auquel se consacrent tous les consacrés, tous les sacripants. Si tous les soldats et tous les civils de quel camp, quelque rang qu'ils soient, décidaient d'un commun accord de tirer au flanc plutôt que de cirer la chevillette de la bobinette chérie, la bobinette chéra. Si le champ de bataille devenait désert, retrouvant sa nature, se livrant en pâture à qui de droit, au mouton, au sens propre, au troupeau, bêlant mais pacifique, paisible, paisant, laissant sur leurs pas de quoi enrichir ce terrain redevenu utile, si tous les gars du monde pouvaient se donner la main, etc. Mais plus nous rabâchons cette évidence depuis la Boétie, plus nous prêchons dans le désert. Le patriotisme est une maladie infantile, infertile, contagieuse et peut-être incurable, à moins que l'année tire à sa fin, l'armée tire sans fin, d'armistice artificiel en armistice circonstanciel, et plus ça tire, plus ça attire, plus ça atterre, plus ça s'enterre, plus ça s'enferme, plus ça s'enferme dans cette idée fausse, c'est-à-dire des fausses. Des fausses communes, des fausses communions, des idées saugrenues, cette idée criminelle, vieille comme l'immonde devoir de défense, qui n'est qu'une défense d'ivoire clair et net. Honnête marionnette qu'on mène à la baguette, ou là-bas, guette la mort, bon sang. La mort et rien de plus, pas la gloire, pas la libération de quoi, de qui que ce soit. La mort, toujours recommencée, inutile et barbare. La peine de mort n'est pas abolie, elle est embellie, embelliqueuse, emberlificotée par ses aberrations, vos opérations, vos coopérations, vos magouilles, vos embrouilles. L'année tire à sa fin et la tirelire du Père Noël tintine. Tintinabule. Pardon. Et le commerce des armes, le commerce des jouets, des jeux de guerre, audiovisuels ou virtuels, fictifs ou factuels, sont toujours aussi florissants. Armes réelles, armes factices, armes pour offrir aux enfants, armes auxquelles offrir des enfants. S'il y a toujours amateur, il y a toujours amateur pour ces délicieux instruments. Je suis marchand de canons. Venez me voir pour vos enfants, comme disait Pierre Perret dans sa chanson. Car enfin, ils ont beau gueuler, tous s'insurger hypocritement contre les méchants, ils s'en font complices et permettent à leurs enfants la sombre singerie, l'imitation sans limite des grands, des héros, des tueurs professionnels. Ça suffit les conneries qui plaisent aux parents pour rendre aussi cons que la plupart des enfants. Ils s'en font complices quand ils applaudissent les défilés militaires. Ils s'en font complices quand ils laissent leurs jeunes enfants passer du statut d'écolier laïque à celui de guerrier stagiaire, aux mains des militaires et des gendarmes. Complices des ministres aveuglés par le pouvoir. L'idéologie, le portefeuille, le fauteuil confortable, qui ne voit rien de militaire dans cette préparation. Hypocrisie. Cynisme, cynisme, pas civisme. Et partout, même dans les pays les moins militarisés, excusez-moi, la peur joue son rôle. La peur met en joue ses drôles, ses drones, ses clones, ses clowns. Et partout, on réarme, fusée à profusion, à profit l'assassin. Petit Papa Noël, tu descendras à la poubelle avec tous ces jouets guerriers que tu nous livres par milliers. C'était l'édito de Yves Lecard. Et Yves Lecard, c'est aussi un cadeau. L'ami Lecard n'est pas seulement le chroniqueur régulier de rétrospective, il se mêle de poétiser et de déclamer en public, sur demande, ses meilleurs textes et ceux des autres amis de la paix. Son deuxième recueil de poèmes, Lichens de soleil, est désormais disponible contre 15 euros. Pardon. Vous pouvez lui écrire à son adresse Yves Lecard, CAR, 320 Ancienne Route des Sarians, SA2RIANS, 84 810 Aubignon. AUBIGNON. Et je vous le recommande parce que depuis plusieurs samedis, j'en lis quelques extraits dans l'émission Dessous de scène auquel nous participons avec Elsa le samedi de 15h30 à 17h.
J'avais les yeux bleus, les cheveux gris, soleil incrusté dans la peau. Je lui ai demandé le nom de son pays, il m'a répondu Kosovo. J'avais embarqué dans ma tire, 60 balais sapés et tout. Où j'allais, je saurais même plus le dire, vers n'importe où. Il m'a fait un sourire fragile et m'a fait comprendre en trois mots qu'il descendait chercher en ville un petit boulot. Dire que chez nous, il y a des crétins, parce que ces gens sont différents, qui les accuseraient facilement, voler notre pain. Dans un français, faut l'avouer, bien meilleur que mon albanais, il m'a raconté qu'il savait réparer, bâtir, cultiver, ce qu'il faisait pour nourrir sa famille, qu'il avait suivi dans sa fuite, de grand-fils, sa femme et sa fille, la toute petite. Dans un centre, ils étaient parqués pour que nos flics aient un œil dessus, pour qu'ils sachent qu'ici, ils étaient pas les bienvenus. Dire que chez nous, il y a des salauds, parce que ces gens parlent étranger, qu'ils accuseraient sans broncher, voler nos trous. Sur ses genoux, ses mains posées, qu'on aurait dit comme des outils, raconter des mois, des années de terre, de ciment, de cambouis. Leur regard un peu perdu, il a hoché la tête et soupiré. J'avais une maison là-bas, tout a brûlé. Vous savez, monsieur, c'est la guerre. Du village, il ne reste rien. Rien des amis, rien de nos frères, rien des voisins. Dire que chez nous, il y a des débiles qui mettraient tout le monde dans le même sac, qui les accuseraient tous en vrac de voler nos filles. Sur un trottoir, je l'ai déposé, au moins 10 fois m'a dit merci. À la foule, je l'ai vu se mêler, on va sa route, on vit sa vie. Alors tandis qu'il s'éloignait, à sa place j'ai cru revoir mon père. Quand au charbon il s'en allait, l'été, l'hiver. Ouais, à sa place j'ai revu mon père, même regard doux, même main. C'est peut-être bien parce qu'on est sur terre, un peu frangin. L'or qu'il soit de là-bas ou d'ici, ne me parlez plus des connards qui sèment la haine et le mépris, suivez mon regard. Ouais, qu'il soit de là-bas ou d'ici, ne me parlez plus des bandits qui sèment la haine et le mépris, la mort aussi.
Vous avez entendu une belle chanson de Kosovo de Michel Buller, qui était qui est de l'album Voyageur. Voilà. Donc je passerai un autre morceau tout à l'heure parce que vraiment faut rendre hommage à Michel Buller qui nous a quitté le mois dernier. Voilà, Serge Géroyot, on avait fait un article dans, il me semble, dans le dernier ou avant-dernier numéro de l'UP. Voilà. Elsa, c'est à toi.
Alors, je vais vous lire un autre article de la bannière de Greenpeace. La science au cœur de Greenpeace. Saviez-vous que Greenpeace possède son propre laboratoire de recherche ? Partant à la découverte de notre unité scientifique, acteur méconnu mais pourtant indispensable à la réalisation de nos campagnes et de nos actions. Le laboratoire de recherche de Greenpeace, aussi appelé unité scientifique, a été créé en 1986 par le docteur Paul Johnston au sein du Queen Mary and Westfield College de l'Université de Londres. À l'époque, ce scientifique spécialisé dans la biologie marine avait été missionné par Greenpeace pour effectuer des recherches sur la pollution des eaux du littoral britannique. La nécessité de disposer d'un laboratoire pour analyser les échantillons prélevés lui a donné l'idée d'installer une structure dédiée au sein de son université. L'appui scientifique, devenant au fil des ans de plus en plus indispensable au travail de Greenpeace de protection de l'environnement, le laboratoire a été transféré en 1992 dans les locaux plus spacieux et mieux équipés de l'université d'Exeter. Depuis, le laboratoire, toujours dirigé par Paul Johnston, n'a eu de cesse d'enrichir le travail de tous les bureaux de Greenpeace dans le monde, de renforcer la légitimité de l'association et de guider ses prises de position, ses revendications et ses actions. Des missions très variées sont confiées à l'unité scientifique. Prélèvement d'échantillons sur le terrain, analyse en laboratoire, formulation de recommandations à l'intention des responsables politiques, suivi des progrès scientifiques, contribution à des revues spécialisées, représentation de Greenpeace auprès d'instances internationales comme la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC, ou le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC. 7 scientifiques, hommes et femmes, de nationalité britannique, hongroise, espagnole et chinoise, constituent l'équipe actuelle du laboratoire. Leurs travaux portent sur des sujets très divers, conséquences de l'exploitation minière sur les fonds marins, pollution des océans par les microplastiques, analyse des produits chimiques dangereux utilisés par l'industrie textile, etc. Le laboratoire est équipé d'instruments de pointe qui permettent par exemple de séparer les composants d'un échantillon, puis de détecter et de déterminer les différentes substances qu'il contient, même en très petite quantité. Les solutions aux défis environnementaux font également partie des sujets de recherche de l'unité, par exemple les substituts aux combustibles fossiles et l'agroécologie. Reyes Tirado, chercheuse au sein du laboratoire depuis 2006, a étudié pendant plus d'un an en Inde les rendements des champs de coton transgéniques et de coton biologique. La scientifique se souvient, j'ai constaté que l'agriculture industrielle causait des dommages à l'environnement, mais aussi aux agriculteurs. À l'inverse, les champs exploités selon des méthodes de production naturelles fondées sur des connaissances traditionnelles et le maintien de la biodiversité garantissaient des revenus plus élevés aux agriculteurs. Des avancées concrètes ont été obtenues au niveau international grâce aux travaux de recherche et de sensibilisation de l'unité scientifique. Prévalence du principe de précaution dans l'élaboration des réglementations, renforcement du contrôle de la pollution des eaux, interdiction de l'immersion des déchets, prise de conscience de la nécessité de réduire la production et la consommation de viande et de produits laitiers, etc. À l'heure des fake news, où nombre d'informations fantaisistes circulent, le travail de l'unité scientifique de Greenpeace apparaît plus que jamais indispensable. Une partie de notre travail consiste aussi à rendre nos rapports et enquêtes accessibles au plus grand nombre, précise Reyes Tirado. Nous essayons de traduire en langage simple des notions qui, de prime abord, peuvent paraître compliquées. Tout le monde doit être à même de comprendre les mécanismes scientifiques des crises du climat et de la biodiversité. La compréhension est essentielle pour que nos sociétés puissent ensuite décider d'agir collectivement dans le bon sens. Pour en savoir plus sur, sur cette équipe scientifique, voici le lien greenpeace.to. Alors, Greenpeace, greenpeace.to.
Je vais vous lire un petit texte qui est paru dans un petit journal viré à l'anarchie, que vous pouvez trouver aussi à Publico, au 145 rue Amelot, dans le 11e. Militarisme. À la fin du 19e siècle, la plupart des gens croyaient sincèrement que la guerre entre les puissances industrielles était devenue obsolète. Les aventures coloniales étaient une constante, mais une guerre entre la France et l'Angleterre sur le sol français ou anglais semblait aussi inimaginable qu'elle est aujourd'hui. Aux alentours de 1900, même l'usage de passeports était considéré comme un barbarisme désuet. Le cours XXe siècle a été, par contraste, probablement le plus violent de l'histoire des humains. La plupart du temps, préoccupé seulement par soit mener une guerre mondiale, soit la préparer. Il n'est pas surprenant, alors, que l'anarchisme est apparu rapidement comme irréaliste, alors que la mesure par excellence est que l'efficacité politique devenait la capacité à entretenir d'énormes machines à tuer. C'est une chose pour laquelle les anarchistes, par définition, ne seront jamais très bons. Il n'est pas surprenant non plus que les partis marxistes qui ont été trop bons dans ce domaine ont semblé être éminemment pratiques et réalistes par comparaison, alors que la guerre froide se terminait et qu'une guerre entre les puissances industrielles semblait à nouveau inimaginable. L'anarchisme est réapparu tel qu'elle était exactement à la fin du 19e siècle, comme un mouvement international au centre même de la gauche révolutionnaire. Le texte est signé David Graeber. J'en ai juste un deuxième. Le militarisme est un système qui consiste à avoir et à entretenir des militaires, des armées. Son but essentiel et avoué est la préparation de la guerre. Le recrutement d'une armée permanente, l'organisation des cadres d'une armée de réserve, l'accumulation, la mise, le maintien en état de servir d'un matériel de guerre toujours plus moderne, plus perfectionné, bref, c'est l'organisation préalable de la guerre. Cette organisation colossale, mise à disposition des gouvernements, leur permet de poursuivre un double but: pouvoir lutter contre les gouvernements étrangers en cas de conflit entre eux et avoir sous la main un appareil formidable de répression violente en cas de soulèvement populaire. Le gouvernement a un absolu besoin de l'armée, tant contre leurs ennemis de l'extérieur que contre ceux de l'intérieur. Théoriquement, pour justifier l'existence du militarisme, on dit que son but est la défense nationale, la sauvegarde de l'intégrité du territoire. En réalité, lorsqu'on suit l'histoire de ces derniers temps et qu'on voit l'armée servir à attaquer les autres pays, à conquérir les colonies, à réprimer les manifestations ouvrières et les grèves, le rôle de l'armée paraît tout autre. C'est la défense de l'autorité gouvernementale établie qu'elle assure. Donc, tout ça, c'est pour ça que le gouvernement piétine à recruter des jeunes pour le SNU, comme ça, qui vont passer 6 mois à faire le lever des couleurs le matin, faire tout ce que fait les militaires, transporter des sacs à dos bourrés de 50 kilos et rester à écouter des musiques militaires sous le soleil pendant des heures et des heures, quand on sait que la plupart des jeunes qui ont fait le SNU sont tombés tous malades, ils se sont écroulés parce qu'au bout d'un quart d'heure, avec leurs vêtements et sous le soleil, ils ne tenaient pas le coup. On se demande comment sont faits les gars qui sont dans l'armée. Ils doivent se doper un maximum pour pouvoir tenir le coup. Petite pause musicale.
Thank you.
Vous avez entendu le deuxième mouvement du piano trio Inde opus 70 numéro 1 Ghost, qui veut dire fantôme, de Ludwig van Beethoven, qui a été interprété par au violon Jody Menuhin, au piano avec sa sœur Hepzibah Menuhin et au violoncelle Maurice Eisenberg. C'est vraiment... je vous conseille vivement de vous procurer le coffret Menuhin centenaire, où vous aurez la totalité des œuvres interprétées par Jody Menuhin, C'est vraiment un coffret où il y a vraiment des choses remarquables, dont une boîte où c'est plusieurs boîtes dans une grande boîte. Et avec il y a tous les enregistrements qu'ils ont fait en duo, frères et sœurs, Yodi et Bziba. Et vous aurez aussi un coffret avec 11 DVD. Ce sont des images d'archives. Et le tout a été fait par M. Bruno Mont-Saint-Jean, qui était un ami de la famille de Yehudi. Voilà. Donc, je vais vous lire encore un papier contre le SNU. L'esprit militariste est un prétexte pour légaliser le meurtre, le viol, les rapines et toute autre forme de crime qui accompagne inévitablement la guerre. Tous les gouvernements sont aux mains de menteurs et rien de ce qu'ils disent ne doit être cru. SNU, un projet d'émancipation de la jeunesse. Macron, dans son discours aux forces armées, « Je vous demande de faire davantage en donnant à nos réserves une nouvelle ambition et en investissant plus et mieux le grand projet du SNU que je porte. » Le ministre des Armées, « La leçon de l'Ukraine, c'est que c'est un peuple résilient. Il faut qu'on réfléchisse à une dimension nouvelle du service national universel. » Comment prendre une classe d'âge et la préparer à tous ses risques. Le SNU, émancipation vis-à-vis de qui? Pas de l'État ou du capitalisme en tout cas. Il s'adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans et doit à terme remplacer le JDC, qui a été créé par Chirac, Journée Défense et Citoyenneté. Et ça durait une seule journée. Alors que le SNU, c'est pour tenir au moins pendant 5 semaines à 6 semaines, et pendant les vacances des enfants. Il poursuit les objectifs suivants. La transmission d'un socle républicain, et quoi de mieux que des gendarmes et des militaires pour le transmettre. Le renforcement de la cohésion nationale, car ce serait dommage de se rendre compte que les prolétaires français ont plus d'intérêts communs avec d'autres prolétaires qu'avec un bourgeois français. Le développement d'une culture de l'engagement et de l'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle, si possible, dans les différents corps d'armée de l'État, quand même. Et il se passe en 3 moments. Un séjour de cohésion de 2 semaines visant à transmettre un socle républicain fondé sur la vie collective, dans lequel tous les matins, les jeunes en uniforme chantent la Marseillaise et participent à la levée du drapeau national. Le reste de la journée, les recrues font différentes activités encadrées par des animateurs et ou des militaires gendarmes. Une sorte de fusion entre le service militaire et une colonie de vacances. Une mission d'intérêt général de 84 heures, du travail gratuit, mais du travail pour la nation. Facultative, un engagement volontaire d'au moins 3 mois. Par exemple, service civique, un travailleur pas cher, réserviste dans l'armée ou dans la gendarmerie nationale. Faut bien que leur temps perdu à venir faire... Il faut bien que le temps perdu à venir faire de la propagande dans une colo leur soit rendu. Pour les sous, le ministère des Finances souhaite fixer une enveloppe de 377 milliards, je dis bien 377 milliards, pour la prochaine loi de programmation militaire. Grosso modo, les 7 prochaines années. De l'argent qu'on préfère mettre ici que dans l'éducation et les domaines médicaux. Entre 1,7 milliard et 4,1 milliard iront pour le SNU, étant donné qu'il coûterait entre 2,4 et 3 milliards d'euros par année. Le reste serait pris en charge par le ministère de l'Éducation nationale et la jeunesse, dont le budget, contrairement à celui de la Défense, est en baisse. Mais le SNU, dans la pratique, depuis qu'il est mis en place par volontariat, parfois le volontariat des parents qui inscrivent leurs enfants sans leur consentement, ça marche, pas autant que voulu. Pour la session 2022, 35 000 recrues au lieu de 50 000 prévues. Une grève du personnel de la jeunesse et des sports, recruter des encadrants autres que l'armée est difficile. Les enseignants n'étant pas très motivés malgré la prime. Scandale quand les jeunes font des malaises debout en plein cagnard. Ce qui n'a pas l'air de gêner le sous-préfet de Vendôme. Pour tous ceux qui sont tombés, c'est que vous allez au bout de vos efforts. Il n'y a pas de mal à ça, soyez fiers. Ou quand le Covid se propage parmi eux. IL. Quelle belle histoire. Voilà. Elsa, c'est à toi.
Alors, en réponse, un autre extrait du... En fait, la suite du premier chapitre, le Minotaure, fait par... de l'essai du pouvoir de Bertrand de Jouvenel. L'explication immédiate. Qu'en Angleterre et aux États-Unis, où l'obligation militaire n'existait point, où les droits individuels étaient consacrés, le peuple entier soit devenu un simple potentiel humain distribué et appliqué par le pouvoir de façon à produire le maximum d'efforts guerriers utiles, la formule est du président Roosevelt, c'est vite expliqué. Comment tenir tête à l'entreprise hégémonique de l'Allemagne en ne faisant appel qu'à une partie des forces nationales alors qu'elle utilisait toutes les siennes? La France qui l'avait tentée instruisait par son sort la Grande-Bretagne et les États-Unis. Celle-là en est arrivée à la conscription des femmes. Dans mon livre « Après la défaite » publié en novembre 1940, j'ai fait voir comment une direction unique imprimée à toutes les forces, même économiques, même intellectuelles, confère au peuple soumis à pareille discipline un avantage immense sur une nation qui n'est pas également rassemblée. Ce monolithisme, en des temps monolithiques, devient hélas la condition de résistance militaire d'une société. Et quand l'adversaire, pour mieux manier les corps, mobilise les pensées et les sentiments, il faut limiter sous peine de subir un désavantage. Ainsi, le mimétisme du duel approche du totalitarisme les nations qui le combattent. La militarisation complète des sociétés est donc l'œuvre, directe en Allemagne, indirecte dans les autres pays, d'Adolf Hitler. Et s'il a réalisé chez lui cette militarisation, c'est qu'il ne fallait pas moins pour servir sa volonté de puissance que la totalité des ressources nationales. Cette explication n'est point contestable. Mais elle ne va pas assez loin. L'Europe, avant Hitler, a vu d'autres ambitieux. D'où vient qu'un Napoléon, un Frédéric II, un Charles XII n'aient point réalisé l'utilisation intégrale de leur peuple pour la guerre? C'est seulement qu'ils ne le pouvaient pas. Il y a eu d'autres cas où, contre un agresseur redouté, on aurait voulu puiser largement dans le réservoir des forces nationales. Il suffira de citer les empereurs du XVIe siècle qui, malgré la dévastation de leur territoire par le Turc, n'ont jamais pu, dans un pays immense, lever des armées qui ne fussent médiocres. Ce n'est donc pas la volonté de l'ambitieux, ni le besoin de l'attaquer, qui à eux seuls expliquent l'immensité des moyens aujourd'hui mis en œuvre. Mais ce sont les leviers matériels et moraux dont disposent les gouvernements modernes. C'est leur pouvoir qui a permis cette mobilisation totale, soit pour l'attaque, soit pour la défense. Le progrès de la guerre. La guerre n'a pas toujours été ce que nous la voyons aujourd'hui. Elle saisissait à l'époque napoléonienne les hommes d'âge militaire, mais non pas tous, et l'empereur, habituellement, n'appelait qu'un demi-contingent. Elle laissait à son existence ordinaire tout le reste de la population, ne lui demandant que des contributions financières modérées. Elle prenait moins encore au temps de Louis XIV. L'obligation militaire était inconnue et le particulier vivait en dehors du conflit. Si donc ce n'est pas une conséquence inéluctable de l'événement guerrier que la société y participe, de tous ses membres et de toutes ses forces, dirons-nous que le cas dont nous sommes témoins et victimes est accidentel ? Non, certes, car si nous ordonnons en série chronologique les guerres qui ont déchiré notre monde occidental pendant près d'un millénaire, il nous apparaît de façon saisissante que de l'une à l'autre, le coefficient de participation de la société au conflit a été constamment croissant et que notre guerre totale n'est que l'aboutissement d'une progression incessante vers ce terme logique d'un progrès ininterrompu de la guerre. Ce n'est donc pas à l'actualité qu'il faut demander l'explication de notre malheur, mais à l'histoire. Quelle cause constamment agissante a donné à la guerre toujours plus d'étendue ? Par étendue de la guerre, je désigne ici et je désignerai l'absorption plus ou moins complète des forces sociales par la guerre. La réponse est fournie par les faits. Les rois en quête d'armée. Lorsque nous remontons à l'époque 11e et 12e siècle, où commencent de se former les premiers d'entre les États modernes, ce qui nous frappe d'abord, dans des temps représentés comme si belliqueux, c'est l'extrême politesse des armées et la brièveté des campagnes. Le roi dispose des contingents que lui amènent ses vassaux, mais qui ne lui doivent le service que pendant 40 jours. Sur place, il trouve des milices locales, mais qui ne valent guère et qui le suivent à peine à 2 ou 3 jours de marche. On fait grand cas de leur rôle à Bouvines, mais plus souvent, il en allait comme à Crécy ou Froissart, les montres tirant les épées à 2 000 de l'ennemi en criant « À la mort ! À la mort !» pour ensuite fuir précipitamment à la première vue de l'armée. Comment avec cela tenter de grandes opérations ? Il lui faut des troupes disciplinées et qui le suivent plus longtemps, mais ils doivent alors les payer. Avec quoi les paierait-il, n'ayant d'autres ressources que les revenus de son domaine ? On n'admet absolument point qu'il puisse lever des impôts, et sa grande ressource est d'obtenir, si l'Église approuve une expédition, qu'elle lui abandonne, quelques années durant, un décime de ses revenus. Mais même avec ce concours, et encore à la fin du XIIIe siècle, la croisade d'Aragon, pour avoir duré 153 jours, apparaîtra comme une entreprise monstrueuse et endettera durablement la monarchie. La guerre alors est toute petite, parce que le pouvoir est petit, qu'il ne dispose aucunement de ces deux leviers essentiels, l'obligation militaire et le droit d'imposer. Mais le pouvoir s'efforce de grandir. Les rois tâchent d'obtenir que le clergé, d'une part, les seigneurs et les communes, de l'autre, lui donnent des aides financières de plus en plus fréquentes. Sous les règnes anglais d'Édouard Ier et Édouard III, français de Philippe le Bel à Philippe de Valois, cette tendance va se développant. On a des estimations des conseillers de Charles IV pour une campagne en Gascogne qui demanderait 5 000 cavaliers et 20 000 fantassins, tous soldats, pendant 5 mois. Une autre, d'une douzaine d'années postérieures, prévoit pour une campagne de 4 mois en Flandre 10 000 cavaliers et 40 000 gens de pied. Mais il faut, pour en réunir les moyens, que le roi se rende successivement dans tous les principaux centres du royaume et, assemblant le peuple grand, moyen et menu, lui expose ses besoins et requiert son aide. De telles démarches, de telles demandes seront continuellement répétées au cours de la guerre de 100 ans, qu'on doit se représenter comme une succession de brèves campagnes qu'il faut successivement financer. Même procédure dans l'autre camp, où le roi, qui a relativement plus de pouvoir, tire des ressources plus grandes et plus régulières d'un pays combien moins riche et moins peuplé. Sur la richesse de la France au début de la guerre, Froissart a donc été le royaume de France gras, plein et dru, et les gens riches et possessant de grands avoirs, et on y savait parler de nulle guerre. Des contributions comme celles nécessitées pour la rançon du roi Jean devront être continuées plusieurs années, mais on ne se résoudra point à les regarder comme permanentes et le peuple se révoltera contre elles presque simultanément en France et en Angleterre. C'est au terme de la guerre seulement que l'accoutumance au sacrifice permettra d'établir un impôt permanent, la taille, soutenant une armée permanente, les compagnies d'ordonnance. Voilà un pas prodigieux accompli par le pouvoir. Au lieu de mendier un concours dans des circonstances exceptionnelles, il a désormais une dotation permanente. Il va mettre toute son application à la croître.
Merci Elsa.
Maintenant que je vous ai instruit, je vous pose des questions sur votre opuscule du parfait soldat, que vous devez connaître par cœur. Je vais vous poser une question au hasard, n'importe laquelle. J'en cherche une de préférence qui a une réponse. Combien de temps met le fût du canon pour se refroidir lorsque l'obus est sorti du canon? Vous! Ça tombe pas sur moi un coup de peau. Hein. Le gars, il fait... Ça départ. S'il y a du vent. S'il pleut. Je ne demande pas ça, Andouille. Je vous demande la réponse qu'il y a là, là. 20 minutes. Non! Vous! Il a dit 20 minutes, oui. Il faut mettre un peu plus de 20 minutes, comment? Oh oui, plus de 20 minutes, faut bien compter un bon quart d'heure. Hein. Non! Vous! 4 jours. Vous me les ferez les 4 jours, vous? Vous! Une seconde. Non, vous! 3 secondes. Non, vous! 2 secondes. Non, vous! Je m'en fous. Quoi? Je m'en fous. Vous en foutez? Moi, je m'en fous, alors. Ben, mettre 15 jours, 3 semaines, 10 ans, alors. Hein. Je m'en fous, hein. Je vais faire une lettre à vos parents, ils vont être fiers de vous. C'est pas une réponse, ça. Vos camarades, ils ont répondu quelque chose. Dites-moi quelque chose, vous. Faut pas, ouais. Répondez-moi quelque chose. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais... Dites-moi quelque chose. Bah, je vous dirais, ben... Je vous dirais, ben, quelque chose, mais j'irai en tôle, alors. 8 jours. Non, vous. Je sais même pas qui chauffer, moi. Vous, une minute. Il y en a même qui marquent et la réponse des autres pour pas dire la même chose. Je vais vous la donner la réponse, ma bande de crétins. C'est pourtant simple, c'est écrit là, là. Des grands gaillards de 28 ans, bon sang, vous savez pas ça? Lorsque l'obus est sorti du canon, bande d'andouilles, le fût du canon pour se refroidir, mais il met un certain temps.
Ça, c'est vraiment une réponse de militaire. Il n'a pas fait HEC, mais il est sergent-chef. Et un sergent-chef a toujours la bonne réponse. Un sacré canon rédo.
Du plafond, mais bon. Hein, ça...
Exact. Très bas du plafond. Ah. Après, c'est ce petit moment de... Et ça fait du bien quand même.
Ah oui, oui.
Fernand Reynaud.
Il nous manque.
Il manque.
Comme plein d'autres d'ailleurs.
Coluche et plein d'autres.
Oui.
Et même. Ah, tous les grands comiques qui sont là.
Oui.
Bon, je vais vous lire. Bernard Bessin fait un texte sur un livre qu'il a lu, qui était de M. Christian Eichen. Un libre penseur parle des anarchistes. Nul doute que la publication du livre de Christian Eichen, ça s'écrit E-Y-S-C-H-E-N, Christian comme Christian, camarade, compagnon et camarade, un libre penseur parle des anarchistes, risque de faire hurler dans les chaumières d'ici et d'ailleurs. Christian Eichen est marxiste, pire, trotskiste, quasiment une sorte d'ennemi héréditaire depuis Bakounine jusqu'à Kronstadt. Mais alors, qu'est-ce que vient faire un livre de Christian Eichen aux éditions Libertaires, écrit Jean-Marc Reynaud, militant de la Fédération anarchiste de la Libre Pensée et créateur de la maison qui édite ce livre, les éditions Libertaires. Pardon. Dans un entretien accordé au mensuel de la Libre Pensée, La Raison, l'éditeur ajoute « En tant que libertaire, nous bouffons du curé, du rabbin, de l'imam, tous les jours. Pour autant, nous estimons qu'une société libertaire n'a pas à être une société éthiquement pure, peuplée uniquement de libertaires, c'est-à-dire d'athées. Qu'elle fonctionne d'une manière libertaire nous suffit amplement. La libre pensée qui est anticapitaliste, antimilitariste, anticléricale, est également porteuse d'une société laïque. Nous sommes donc faits pour nous entendre. Compagnons et camarades est composé de plusieurs chroniques de lecture et de livres, de lecture de livres consacrés à l'anarchie, édité et publié par Christian Eichen. Dès le premier article publié en 2014 au sujet du livre Le mouvement anarchiste en France, pardon, depuis David Berry, nous sommes heureux de rencontrer une figure du pacifisme qui nous est chère, Louis Lecoing. Le défenseur infatigable du pacifisme n'hésitera pas à sortir son revolver et à s'en servir pour éviter les affrontements physiques violents entre les partisans et adversaires de la section de la CGT en 1921, écrit Christian Eichen. Pour l'Union pacifiste, Louis Lecoing est aussi celui qui a dit « S'il m'était prouvé qu'en faisant la guerre, mon idéal avait des chances de prendre corps, je dirais quand même non à la guerre, car on n'élabore pas une société humaine sur des monceaux de cadavres. » En présentant le livre à René Berthier en 1936, à travers le libertaire Christian Eichen écrit « On trouvera les éditoriaux de Nicolas Fossier de l'époque qui n'avaient aucune illusion sur le cours et les objectifs du Front populaire. » Ainsi, le libertaire titre le 20 mars 1936 « Le Front populaire, c'est l'union sacrée et l'union sacrée, c'est la guerre. » Cette position de Nicolas Fossier, mutin de la mer Noire en 1919, militant antimilitariste que j'ai eu la chance de rencontrer à Saint-Nazaire en 1982, quand nous tournions le film sur Mai Piqueret, ne m'étonne pas. Son livre « Pacifisme et antimilitariste » dans l'entre-deux-guerres, publié aux éditions Spartacus en 1983, est aussi intéressant. Christian Eichen m'a fait découvrir Émile Deré, anarchiste, pacifiste et sculpteur, qui est le sujet du livre de Thierry Guilabert, « Tu ne tueras plus ». L'auteur raconte l'histoire d'un monument sculpté par Émile Deré qui représente deux soldats nus qui s'embrassent, un Français et un Allemand. Ils sont nus dans les bras, l'un dans les bras de l'autre, dans les bras de leur mère, l'humanité qui les protège. Excusez-moi. Ce monument sculpté après la grande guerre boucherie de 1914-18 fait scandale. Les patriotes cars y voient un affront à l'union sacrée et ils n'ont pas tort, écrit Christian Eichen. À découvrir aussi l'école libertaire Bonaventure, 1993-2000. Histoire d'une république éducative, libertaire, laïque et gratuite. Christian Eichen précise, c'est l'histoire d'une république éducative garantie, sans patron, sans curé, sans État. un vrai produit bio, en quelque sorte. Et parmi les nombreuses figures anarchistes que Christian nous présente, nous retenons en particulier Malatesta, dans le livre d'Élise Fracaro, Malatesta, biographie en images d'une figure de l'anarchisme italien. Émile Pouget, dans le livre de Josh Ulakiben, Émile Pouget, la plume rouge et noire du père Pénard. Jean Vigo, dans le livre de Thierry Guilabert, Jean Vigo libertaire à propos de Nice. Il y a encore beaucoup de personnages passionnants à retrouver dans le livre de Christian Eichen, et notamment Rodolphe Rocker, qui écrivait « Ce qui distingue l'anarchisme de toutes les autres tendances du socialisme, c'est l'idée qu'on ne peut pas obliger par la violence les hommes à choisir la liberté. On peut tout juste leur faire comprendre que la liberté est toujours préférable à la soumission. » Dans sa postface, Christian Eichen écrit « En lisant tous ces livres que j'ai chroniqués, j'ai donc revisité beaucoup de choses. Il fallait faire l'inventaire. J'avais bien compris qu'il n'y a pas de différence entre les trotskistes et les anarchistes sur la finalité de notre combat, mais que c'était sur le moyen terme qu'il y avait des désaccords, c'est-à-dire sur la question de l'État. » Nous vous recommandons la lecture de Compagnons et camarades, livre instructif, riche et bien illustré, pour apprendre à mieux se connaître dans les luttes actuelles, notamment dans celles qui rapprochent la libre pensée de l'Union pacifiste. Le refus du SNU, Service National Universel. Un texte signé Bernard Bessin. Et il est sorti en septembre 2022. Et vous pouvez le trouver chez votre libraire préféré.
Dans les années 1880, un chef indien, le chef Seattle, écrivait une lettre au président des États-Unis. J'en ai fait cette chanson. Vous voulez acheter nos terres et vous nous parlez d'amitié. Votre âme blanche est un mystère. Nous ne nous comprendrons jamais. Nous ne possédons pas la course du cheval, ni le bruit des sources, ni la forêt, ni l'horizon. Comment pourrions-nous vous céder l'oiseau, le nuage nacré, les insectes dans le buisson? Ici rien ne nous appartient. Ainsi parlait un vieil indien. L'herbe, la roche, la rivière, pour nous, toute chose est sacrée. Le ciel écoute nos prières, il fait refleurir nos étés. La sève garde ma mémoire, la brise raconte l'histoire de notre peuple à nos enfants. Et l'eau, ce n'est pas que de l'eau, c'est ma sœur douce à mon canot qui frémit au moindre courant. Dans le sol dorment nos anciens. Ainsi parlait un vieil indien. J'ai vu, et vous le savez bien, mille pigeons sur la prairie. Vous les tirez depuis vos trains. Pensez-vous acheter la vie? Vous êtes comme la nuée, comme celui qui vient voler, comme la crue après la pluie. Rien ne semble vous rassasier, nous n'avons rien à vous donner, vous souillez votre propre lit. Nous chassons quand nous avons faim. Ainsi parlait un vieil indien. Vous portez l'odeur de la mort, nos femmes, vous les humiliez. Vous êtes aujourd'hui les plus forts, Dieu s'est mis de votre côté. Nous n'avons donc pas d'autre choix que cette réserve là-bas. Pourquoi parlez-vous de traité? Voici le couchant de nos jours, vous l'apprendrez à votre tour. La force est un maître léger, mais qui vous pleurera demain? Ainsi parlait un vieil indien. Mais qui vous pleurera demain? Ainsi parlait un vieil indien.
Encore une belle chanson tirée de l'album de Michel Buller, Voyageur. Elsa ?
Le mensuel anarchiste non violent Grasswurzel-Révolution, Révolution populaire, fêtait ses 50 ans à la Foire du livre anarchiste de Mannheim le 28 mai 2022. Le courant de l'anarchisme non violent remonte en Allemagne à son développement après la Première Guerre mondiale avec Gustav Landauer et Fritz Oerter en Autriche, avec Pierre Ramu et Olga Missar aux Pays-Bas, avec Clara Wischmann et Bart de Ligt, lesquels comptent encore aujourd'hui parmi les références anarchistes du journal et des groupes d'action directe non violente et de désobéissance civile. Le journal a été fondé en 1972 dans un contexte de répression qui résultait des importantes protestations des étudiants des années 60 et où le mouvement se divisait en organisations communistes léninistes, en groupes armés comme la RAF, Route Armée Fraction, les RZ, Revolutionar Zelen, Route Zora, et en groupes néo-anarchistes, dont les groupes anarchistes non violents. Il a été influencé par des contacts et des échanges avec la France, avec la résistance antimilitariste sur le Larzac contre l'extension de la zone d'entraînement militaire prévue sur place pour l'armée française, ainsi que par la revue Anarchisme et non-violence, 1964 à 1974, par la tradition anglophone et les contacts avec l'Internationale des résistants à la guerre et sa conférence triennale à Sheffield en 1972, où un courant libertaire au cours de Georges Lacay et Michael Randall a élaboré les bases de la révolution non-violente. Enfin, par des contacts et des campagnes de solidarité avec les objecteurs de conscience espagnols qui s'opposaient à la dictature de Franco et qui étaient en relation avec la tradition anarchiste espagnole. Dès 1974, le réseau de groupes d'action non-violents qui s'était constitué autour du journal contribua à la critique, alors nouvelle, de l'industrialisation capitaliste ainsi qu'à la résistance des Bürgerinitiativen contre les projets de construction de centrales nucléaires. À partir de 1976, le mouvement contre les centrales nucléaires en Allemagne de l'Ouest est devenu un mouvement de masse que Grasswurzel-Révolution a soutenu jusqu'à la décision provisoire de 2011 de fermer complètement les centrales nucléaires d'ici à 2022. Les groupes d'action non violente ont régulièrement introduit des concepts d'action directe dans le mouvement, comme le boycott du paiement de l'électricité dans les années 1970. En 1980 se constituait la République libre de Wendland, dont l'occupation de la place pendant 4 semaines est devenue une utopie encourageante et durable pour l'ensemble du mouvement. La même année, le réseau de groupes d'action non violente a donné naissance à la FOGA, Fédération des groupes d'action non violente, Révolution par en bas, qui a existé jusqu'en 1997. La FOGA a influencé le mouvement antinucléaire et le mouvement pour la paix des années 1980, qui allait se radicaliser en un mouvement antimilitariste et contribuera au dépassement de la guerre froide à l'époque. À la fin des années 1980, Grassfurzel Revolution et la FOGA ont initié au sein du mouvement antinucléaire la stratégie des blocages décentralisés des transports Castor qui ont été pratiqués jusqu'à la première décennie du XXIe siècle. Cette stratégie a permis de créer d'un seul coup un parcours de milliers de kilomètres pour des actions directes contre les transports nucléaires et n'a jamais pu être entièrement contrôlée par la police. Au cours de cette histoire, Grassfurzel Revolution a publié des brochures, plusieurs numéros spéciaux et des feuilles à plus grand tirage qui expliquaient ses positions et contribuaient à la diffusion du concept de révolution non violente. Depuis 1997, le journal est un projet indépendant qui publie aussi des livres et continue de soutenir les actions de désobéissance civile contre l'extraction de charbon, le changement climatique ou pour le féminisme. Traduit et résumé par le CIRA. C-I-R-A.
Merci. Alors, je me suis dit aussi un texte tiré de l'UP. La guerre se fabrique près de chez vous. La guerre engagée le 24 février 2022 contre l'Ukraine par la Russie, quelle qu'en soit l'issue, est venue raviver les peurs d'un conflit généralisé en Europe et devrait renforcer la volonté des gouvernements d'augmenter les dépenses militaires. Cette tendance n'est pas nouvelle et les nombreux conflits actuels, Syrie, Mali, Yémen, justifient pour les États une militarisation accrue et une course aux armements toujours plus importante. En 2020, les dépenses militaires explosent. 1981 milliards de dollars, dont 531 à l'exportation, selon le rapport du SPIRI. C'est Stockholm International Peace Research Institute, institut indépendant des études stratégiques de Suède. Le budget des armées françaises est passé de 1,77% du PIB en 2017 à 2,1% en 2022, soit 46 milliards d'euros et passera à 3% d'ici 5 ans, soit environ 66 milliards d'euros. Où vont-ils chercher tout ce pognon ?
C'est bien la question que je me demande. Je me pose à chaque fois cette question. Où ça sort ?
Je dirais bien quelque chose, mais c'est de l'argent fictif.
Oui, mais il faut bien que même cet argent fictif qui sorte de quelque part.
Ça, c'est pas de l'argent qui vient de la planche à imprimer.
Ah, ça c'est sûr.
Malgré le TCA, traité sur le commerce des armes, signé par la France, qui interdit d'exporter des armes vers des pays ou des zones de conflit où les droits humains sont bafoués, et malgré l'embargo sur les ventes d'armes suite à l'annexion de la Crimée en 2014, plusieurs entreprises, Safran, Thales et Sofradir, une PME grenobloise, ont continué entre 2015 et 2020 à fournir pour 152 milliards d'euros de matériel qui sont utilisés dorénavant par la Russie en Ukraine. Il faut souligner cependant que 44% des ventes françaises vont vers les États du Moyen-Orient. Pour certains en guerre et dont la plupart répriment leur société civile. Ne pas oublier non plus que la France arme simultanément deux États en conflit permanent, l'Inde et le Pakistan. Donc la France exporte la guerre.
Oui.
Je me tue à le dire depuis très longtemps.
Mmh. Suzanne le confirme aussi dans ses émissions et tous les autres membres de l'Union pacifiste aussi, tous les autres animateurs.
La région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Aura, accueille sur son territoire quelques-unes de ses industries d'armement. L'Observatoire des armements vient de publier un dossier intitulé « La guerre se fabrique près de chez vous ». Cette étude a pour objectif d'interroger le rôle des entreprises d'armement et de maintien de l'ordre dans la région Aura, qui contribue par la vente de leur matériel et composants à alimenter des conflits ou la répression des manifestations. Certaines entreprises sont strictement militaires, Arcus, Nexter. D'autres produisent pour le militaire et le civil. Pardon. Désolé. Safran, Dessotel, Metraviv, ou travaillent simultanément pour les armées, le maintien de l'ordre et la sécurité. Vernet Caron à Saint-Étienne, fusils, flashball, munitions et projets. Et projet Seren City. C'est pas très serein, ça. La plupart de ces sociétés sont impliquées directement ou indirectement dans différents conflits. Yémen, le canon et blindier Nexter, Niger, hélicoptère d'Ares, Égypte, fusil PGM blindé Nexter, et Israël, fusil PGM, Kurdistan, détecteur Metraviv sur blindé turc, Mali, Libye, mercenaires de Corp Guard, etc., etc. Prenons un seul exemple de ce dossier. L'entreprise Carp Guard, société militaire privée, Bragnétoire, et où les différentes activités des responsables de société, David Homus et Pierre Martinet, sont entourés d'une réputation sulfureuse avec, par exemple, un rôle trouble en Libye ou en conseil de formation auprès de l'armée ivoirienne, impliquée dans des massacres. David Homus est aussi adjoint en charge de la prévention et de la sécurité à la mairie de Saint-Genis-Laval. Bravo. De plus, pendant la dernière campagne présidentielle, il a officiellement soutenu la campagne de qui ? Éric Zemmour. Pour compléter le tableau, déjà assez néfaste, parmi l'expertise de CopyGuard figure d'ailleurs tout un volet sur la gestion de crise en cas de conflit social, avec pour objectif de protéger votre entreprise en toutes circonstances. Les sociétés mises en cause dans le dossier de l'Observatoire des armements ont apporté des réponses en retour. Mais toutes éludent les vraies questions. Par exemple, la société Metraviv Défense, au sujet des capteurs mis à disposition de l'armée turque, indique que ce n'était qu'un projet présenté dans un salon et que l'armée turque se fournissait auprès d'une société turque produisant un projet similaire. Comprenez, une société turque à laquelle Metrabit a transféré sa technologie, comme par hasard. Autre réponse n'est pas apportée par Corp Guard sur ses actions en Libye après le printemps arabe en 2007-2008, tout comme le par Detal Drone sur les applications militaires de sa technologie. Ces quincaillers du meurtre adorent les subventions publiques. En 2011, Kimmelfeld, ex-président de la métropole de Lyon, a allongé 6 millions sur les 30 milliards d'euros de financement. Excusez-moi. Kimmelfeld, ex-président de la métropole de Lyon, a allongé 6 millions sur les 30 millions d'euros de financement public prévu pour attirer Safran à Frézin. En 2015, l'usine d'assaut d'Argonnet, en Haute-Savoie, a bénéficié de fonds publics locaux. La région Aura finance le cluster EDEN, European Defense Economic Network, association de chefs d'entreprise du secteur militaire ou civil de la région. aucun syndicat, aucun parti de gouvernement, aucune collectivité locale ne dénonce des industries d'armement ni nationales ni régionales. Les profits de l'attractivité économique de la préservation et le développement de l'emploi, environ 200 000 en France, le mythe de l'indépendance nationale écrase toute discussion, critique ou contestation. Les informations présentées dans ce document de l'Observatoire des armements sont du domaine public, donc accessibles et vérifiables. Un prolongement du dossier, notamment sous forme de cartographie, est disponible sur le site www.opsarm.org. Opsarm, ça s'écrit OBSARM.org. Et le papier est signé Maurice Balmet.
Je ne sais pas si vous avez fait votre régiment, il y a des choses qui déplaisent assez au départ. On était 500, on était tous déshabillés, n'est-ce pas? Cela n'est rien, mais on ne nous a même pas présentés. Alors, vous aviez devant vous un visage que vous ne connaissiez pas. Il y avait là des jeunes gens de toutes classes, n'est-ce pas? Il y en avait qui sortaient de HEC, d'autres qui sortaient des hautes études commerciales. Il y en avait même 4 ou 5 de Polytechnique qui étaient complètement perdus, ils se demandaient pourquoi ils étaient là. Enfin, des jeunes gens très bien, n'est-ce pas? Puisque j'y étais moi-même. Alors, bon, vous allez voir comme les gens sont méchants. Un monsieur est venu, un monsieur d'une cinquantaine d'années. Il a dit, moi, faut m'obéir, je suis caporal chef de carrière. Je vais vous parler du radar. Le radar, c'est comme qui dirait une parabole qui partirait d'un point A pour aller à un point Z. Mais si sur cette parabole, il y a un point C ou D ou X quelconque qui l'empêche de passer, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prévenir vos supérieurs. Il y en a qui sortaient des études atomiques, il y en a, vous savez, je ne suis pas tellement d'autre avis, puis là, vous devriez parler un peu moins vite. Il dit, si je parle moins vite, j'arrive pas jusqu'au bout. Alors, je me souviens, il nous a fait mettre dans la cour de la caserne. À bon commandement, en avant, une, deux, à gauche, gauche, une, à droite, une. Ça a duré une heure, ça. À gauche, gauche, à droite, droite. À un moment donné, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, j'ai dit, oh, faudrait savoir ce que vous voulez. Le gars, il s'est mis en colère, sortez des rangs, vous venez ici. Une forte tête. Il y a 3 heures, vous êtes à la caserne, vous commencez à gueuler, bravo, j'aime ça. Venez ici. Je gueule pas. Enfin, là, depuis 2 heures, on est là comme des andouilles, on va à droite, on va à gauche. Venez ici, à plein ventre. Je veux pas me foutre à plein ventre, tout de suite. Pourquoi? Pour montrer un exemple devant tous vos camarades. Alors, si le premier jour on fait ce qu'on veut, on discute avec ses chefs, ses supérieurs. Hein? À plein ventre. Alors? Ah non. Si! Ah non. Ça, j'ai pas foutu à plein ventre. Alors, surtout qu'il m'avait donné un beau costume tout neuf. Il avait plu, il y avait des flaques d'eau. J'ai dit, je veux pas abîmer ce beau costume. Tout de suite. Ah non. Si! Ah non, 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 et non. Et puisque vous insistez, je vais aller trouver le directeur de la caserne. J'ai été trouver le directeur, j'ai eu un mal fou d'ailleurs à le trouver, nommé monsieur colonel, je ne me souviens plus de son nom. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le directeur, venez vite, il y a un espèce de fou qui est au milieu de la caserne, il nous fait aller à droite, il nous fait aller à gauche, il ne sait pas où on veut aller, il veut me faire plonger dans des flaques d'eau, allez vite l'arrêter avant qu'il tue quelqu'un. Un mois de prison. Je ne suis pas méchant pour les autres, mais enfin, je crois qu'il les mérite. Pas lui, vous. Comment ça, moi? Oui, vous me ferez 2 mois. Et donc, je me suis mal exprimé, certainement. Je vous disais, 4 mois de prison. Pour qui? 5 mois de prison pour vous. Écoutez, je vais avoir 6 mois de prison. Mais alors, là, 7 mois. Mais là, 8 mois. J'éternue, 9 mois. Les gens sont méchants, vous savez.
Ah, les militaires resteront toujours des militaires. Bas du plafond.
Voilà. Oui, alors qu'est-ce que ça aurait fait s'il avait roté et pété, ça serait monté à un an.
Alors là, et comme on sait qu'à l'époque, ils avaient un an d'armée,
oui.
Et ben là, lui, il va en faire deux, à ce régime-là.
Oui. Voilà.
Et bien, ce sont ces belles paroles de Fernand Reynaud. Il est 19h26, nous allons nous vous quitter. J'espère que les textes qu'on vous a lus vous porteront à voter contre le SNU, vu qu'il y a des parents qui inscrivent leurs enfants sans leur consentement. Alors, et je pense que sont plus les enfants des territoires et départements d'outre-mer, vu qu'ils sont, sans être trop méchants, et même s'ils sont de couleur africaine, ils se prennent pour des petits blancs. Voilà. Ils ont un esprit trop européen et plus de l'esprit de leurs origines.
Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est que tous se souviennent,
oui.
Et vraiment, à l'unanimité, et quelles que soient les situations sociales, que nous sommes des enfants de la paix. Vu que
exact.
Ça fait des siècles que nous sommes mélangés. Voilà. Ben, souvenez-vous de ça. Et soutenez l'action anti-SNU.
Merci et à jeudi prochain avec peut-être Bernard au micro. Au revoir.
Au revoir.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que celles de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Cotentin. Le passé guette un train qui n'est jamais inscrit aux cases de départ.
quand il arrive à quai, rongé par les embruns, la brume s'en empare. Les wagons ont le ventre obèse des baleines, et la loco devant filtre dans ses fanons nos yeux huilés d'adieu, nos poumons, nos haleines, nos âmes de plancton. La nuit rampe, elle, au moins, respecte son horaire. Au loin, les chalutiers font un bruit de ferraille. Ça broie, ça crie.